Marcel Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, Gisèle Brun, à laquelle nous dédions cette émission encore, et nous lui souhaitons bon rétablissement, aujourd'hui, donc, en ce début avril 2023, nous avons une pensée pour un petit bonhomme que l'on connaît sous le nom de Petit Prince. Et le Petit Prince, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Et donc, il y a 80 ans, paraissait à New York, le 6 avril 1943, en français et en traduction anglaise, Le Petit Prince. Et nous allons interroger Antoine, si vous voulez bien, pour savoir d'où vient ce petit prince, de quel royaume il vient. Il vient nous parler, il vient nous interroger, car au début, c'est une question qu'il avait posée à un pilote qui se trouvait égaré en plein désert. Et en 1940, ce pilote, Antoine de Saint-Exupéry, raconte « Il y a 6 ans, j'avais une panne dans le désert du Sahara. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 milles de toutes les terres habitées. J'étais plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 lieues de toutes les régions habitées. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Donc, ce petit prince surgit dans le désert et l'auteur va en faire un conte, une philosophie, un petit chef-d'œuvre qui est le plus vendu après la Bible encore de nos jours, une œuvre de langue française, la plus connue d'Antoine de Saint-Exupéry. Comme je vous l'ai dit, elle sera publiée en 1943 à New York, simultanément en anglais et en français. Oh, on va dire que c'est un conte poétique et philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants. Le manuscrit original a été conservé à la Pierpont Morgan Library de New York. Library, c'est-à-dire la bibliothèque. Chaque chapitre relate une rencontre de ce petit prince qui laisse celui-ci perplexe quant au comportement absurde des grandes personnes. Chacune de ces rencontres peut être lue comme une allégorie. Quant au langage, il est simple et dépouillé, parce qu'il est destiné à être compris par des enfants. Et en réalité, pour le narrateur, le véhicule privilégié d'une conception symbolique de la vie. Il y a aussi des aquarelles qui font partie du texte. Et elle participe à cette pureté du langage. Donc le tout est dépouillé et profond. Voilà les qualités maîtresses de l'œuvre, dépouillement et profondeur. On peut y lire une invitation de l'auteur à retrouver l'enfant en soi, car toutes les grandes personnes ont d'abord été des grands enfants et des petits enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent, nous dit Saint-Exupéry. Alors pourquoi Saint-Exupéry a-t-il écrit Le Petit Prince? Comment en a-t-il eu l'idée? Ce miracle tient un peu de choses. Ce livre unique vendu à des millions d'exemplaires dans le monde et traduit en presque 500 langues et dialectes, doit sans doute sa naissance à une idée lancée, par hasard, par l'éditeur ou les éditeurs américains Eugène Reynal et Curtis Hitchcock de Saint-Exupéry. Il faut vous dire que ce jour-là, à l'été 1942, Reynal rencontre à New York son auteur et ami Antoine. L'écrivain est déjà célèbre en Amérique, où il s'est exilé à la fin 1940. Son récit de guerre, pilote de guerre, dans lequel il raconte ses missions, sa mission pour l'armée de l'air française, vient d'y connaître un accueil triomphal. Cependant, même s'il y est fêté, Saint-Ex s'ennuie mortellement à New York. L'aviation et ses sensiaves fortes lui manquent, et la France, occupée par les nazis, également. Pour le distraire, Reynal lui lance alors « Écrivez donc un conte, je le publierai pour Noël ». Saint-Ex relève la tête, un peu intrigué. Reynal a fait mouche, ou Curtis aussi a fait mouche. Un conte, C-O-N-T-E, comme un conte de Perrault, un conte de Grimm, un livre pour enfants. Cette proposition rappelle à Saint-Ex d'innombrables souvenirs. Et puis il adore les enfants. Et puis il songe à son frère François, disparu à l'âge de 15 ans, au château de Saint-Maurice de Raymond, tout près d'eux, dans Berrieux, et pas trop loin de Bourg. Il se souvient de Pierre Sudreau, ce lecteur enthousiaste de 12 ans qui lui a écrit au début des années 30, alors qu'il venait de faire paraître « Vol de nuit ». Ou de Thomas de Coninck, le fils d'un ami qui lui posait de brillantes, mais de brillantes questions lors d'un voyage au Québec. Enfin, Saint-Ex se rappelle ce jeune garçon qu'il a croisé lors d'un voyage dans un train russe et dont la beauté fragile l'a ébloui. Il l'a rencontré dans « Terre des hommes » en 1939, comparant cette apparition à celle d'un petit Mozart. Il faut savoir qu'Antoine, qui est l'auteur des aquarelles, est quelqu'un qui griffonne tout le temps. Depuis un certain temps, il griffonne un petit garçonnet, dont la chevelure flotte au vent. Pourquoi le sait-il lui-même? Toutes ces images qui se confondent un peu dans sa mémoire le confortent dans l'idée d'écrire un livre pour les enfants, loin des romans pour grandes personnes. Cette idée est en germe au fond de lui. Depuis des années, il ne griffonne-t-il pas sur les nappes de restaurants ou dans la marge de bloc-noc, un garçonnet dont la chevelure et l'écharpe flottent au vent. Quand on le questionne, il répond en riant « Je porte ce petit bonhomme dans le cœur ». En 1942, Saint-Ex voit sur un trottoir de New York un enfant qui pousse des cailloux par terre. Intrigué, il lui demande ce qu'il fait. L'enfant explique « Tu vois bien, je joue avec mes bateaux ». Saint-Ex est ébloui, c'est ce qu'il rêve d'écrire. Un livre où l'on verrait des choses qui échappent au regard, des choses que l'on ne peut voir qu'avec l'imagination, bref, des choses que l'on ne peut voir avec le cœur, des choses que seuls les enfants peuvent se figurer. Et alors, l'entreprise va débuter. Il va inventer en quelques mois tous les personnages merveilleux qui peuplent le petit prince, le renard, un serpent, une fleur, des baobabs. Il écrit et dessine sans dire continuer, car il s'est décidé à illustrer lui-même son conte. Là encore, cela tient peu de choses. C'est son ami, Sylvia Hamilton Reinhardt, qui lui aurait suggéré de se passer de l'aide d'un illustrateur, alors qu'il voulait faire appel à son ami, le peintre Bernard Lamotte. Un petit coup de destin, peut-être. Le petit prince est décidément né sous une bonne étoile. Donc des baobabs dont les racines ravagent la terre. Saint-Ex confie ici, au contour du conte, ses inquiétudes. Ces arbres sont étranges, énormes, bizarres, ils font peur comme la guerre qui est en cours. Les trois baobabs figurent les trois puissances de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, qui dévastent le monde en 1942. En 1927, Saint-Ex est en poste à Cap Juby, dans le sud marocain, au service de l'aéropostale. Et c'est là qu'en plein désert, il adopte un fennec. c'est-à-dire un carnivore du désert, un renard du désert, avec de grandes oreilles. « C'est plus petit qu'un chat et pourvu d'immenses oreilles », écrit-il à sa sœur Gabrielle. 15 ans plus tard, il se souviendra de cette rencontre pour donner naissance au fameux renard du Petit Prince. Il y a aussi des fleurs et puis une belle rose. « J'ai des difficultés avec une fleur », explique le Petit Prince au serpent. Le serpent qu'il croise au début du conte. Il est inquiet pour elle, car elle tousse. Mais il est parfois gassé, car elle n'est jamais contente. Cette fleur fragile et capricieuse représente en réalité Consuelo, l'épouse de Saint-Ex, qui souffrait d'asthme, mais qui l'adorait cependant. Quand il dessine les personnages, il fait flèche de tout bois. C'est un esprit inventif. Ainsi, pour ce fameux mouton, « Dessine-moi un mouton », il semble qu'il ait pris un modèle de caniche d'un ami. Un tigre est inspiré d'un autre chien, le boxeur de sa amie Sylvia. Enfin, pour d'autres croquis de son Petit Prince, il demande à son ami, l'écrivain franco-suisse Denis de Rougemont, de prendre la pose. Ce personnage orphelin est peut-être quelque chose de précoce. Ce Petit Prince va paraître en avril 1943. Il n'a pas pu être prêt pour Noël 42, et c'est pas facile. Et puis Saint-Ex ne saura rien de son incroyable succès, car quelques mois plus tard, le 2 avril 1943, et nous voyons qu'il s'agit de quelques jours, 2 avril 43, 6 avril 43, il part dans un grand bateau, un transport de troupes, qui fait partie d'un convoi, le convoi UGF-7, c'est un nom de code. Ils sont une trentaine de navires qui vont traverser l'Atlantique, destination Gibraltar, au sud de l'Espagne, et puis après, Oran. Il part rejoindre les forces françaises libres en Algérie. Et à l'été, eh bien, là, il espère pouvoir reprendre la lutte, reprendre le combat. On a vu que ce dessin était griffonné au début sur une serviette en papier, car Saint-Ex était arrivé à New York le 31 décembre 1940, 6 mois après la signature de l'armistice par la France pétainiste. Il entend user de ses relations et de son prestige légendaire d'écrivain aventurier best-seller pour entrer en guerre aux côtés des alliés. Il veut réussir. Il veut réussir, il reste quelques semaines, pense-t-il, mais il restera à New York 28 mois. 28 mois d'exil. La méfiance que lui inspire De Gaulle l'isole et le rend quasi inaudible. Dépression, ennui de santé, soucis, pendant qu'il passe des nuits à écrire, c'est sa méthode de travail, café, tabac, Coca-Cola. Il dicte tout cela sur un appareil et il a une secrétaire qui transcrit sur le papier le lendemain. Il écrit pilote de guerre, car il veut raconter ce périple du 23 mai 1940 au-dessus d'Arras, car l'état-major lui demande de compter, si c'est possible, le nombre de blindés allemands qui déferlent sur le nord de la France. Ce sera pilote de guerre qui sera un vrai succès en Angleterre et en Amérique sous le titre de Flight to Arras. Il est sorti en février 1942. Et le roman, plutôt le récit, rencontre un succès immédiat. Cela qui permet d'ouvrir les yeux aux Américains qui savaient bien qu'il y avait la guerre en Europe, mais qui ne pouvaient pas mesurer ce qui était arrivé en France, en Belgique, en Hollande, etc. Cela fait mieux connaître les enjeux du conflit européen. Déjà, l'Europe souffre beaucoup. Et puis l'opinion américaine va se réveiller après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. L'histoire nous retrouve toujours. Ce saut dans le temps et ce changement de longitude sont nécessaires pour comprendre un fait essentiel, ce petit prince est un conte qui n'aurait pas pu voir le jour sans le malaise moral et physique de Saint-Ex, affligé par son exil. Sa solitude est affective et spirituelle, et notre civilisation sur le continent a l'air de s'effondrer, que de souvenirs partent peut-être en fumée. C'est un dessin enfantin qui est griffonné sur une serviette en papier, que sa légende est sur le point d'entrer, dans un café, au pied de l'immeuble où il résidait, 240 Central Park South. Ce café s'appelait le Café Arnold. C'est un peu la cantine de nombreux Français qui étaient réfugiés à New York et qui avaient plaisir de se retrouver. Elisabeth Reynald, l'épouse de Eugène Reynald, ou aussi Peggy Curtis Hitchcock, suggère en parlant à Antoine peut-être de faire quelque chose. Le mari en parle car il voit notre Antoine bien bien triste. Il pense à Noël aussi. Et pourquoi pas justement revenir à cette idée de conte pour enfants. Les enfants sont friands de contes. On verra que la presse américaine ensuite va porter au nu ce texte de notre ami Antoine. L'intéressé est enthousiaste parce que c'est l'enfance. Il est resté un grand enfant. Il a quitté la France, le pays de son enfance. Bref, il va pouvoir raconter des histoires plus tard quand il rendra visite après la guerre, si tout va bien. L'affaire est entendue, il se met au travail, à sa façon, c'est un oiseau de nuit, enfin, peu à peu, le travail arrive, et tous les souvenirs du passé vont aider Saint-Ex à composer, comme un morceau de musique, ce petit chef-d'œuvre. À l'été 42, Antoine y ronge son frein dans New York. Il a le cafard, comme on dit. Les temps sont en désordre. La guerre gronde toujours. Lui a fui la France, occupée. L'exil lui pèse dans une Amérique qu'il connaît, mais qu'il ne prise guère, détestant les entassements d'hommes dans des pyramides de pierre. Oh, il n'est pas seul dans la colonie française de New York. Il a voyagé avec Jean Renoir sur un bateau le conduisant aux États-Unis, qui était parti de Lisbonne. Il a débarqué le 31 décembre 40. Il y a son ami, le peintre Bernard Lamothe. Il y a la comédienne d'origine française, Suzanne Charpentier, devenue Annabella Power. Il y a Jean Gabin. Il y a Paul-Émile Victor. Il y a les Lazareff. Il y a bien d'autres encore, André Mauroy. Les mondanités permettent d'entretenir la flamme, mais les enjeux politiques de l'époque n'épargnent pas la diaspora française. Des rumeurs traversées par des courants violents, l'auteur de Pilotes de guerre est même un temps soupçonné d'être favorable au régime de Vichy. Cela énerve Saint-Ex et cela se retrouve sur son moral et sur le travail qu'il a entrepris. Mais les Américains, eux, ont accueilli à bras ouverts le héros de l'aéropostale, l'auteur de Vol de nuit que le cinéma a déjà porté à l'écran, 33 avec Clark Gable dans le rôle. Terre des Hommes, qui vient d'être désignée par les libraires meilleure œuvre non romanesque pour l'année 38. On admire les exploits du héros des ailes françaises. Son séjour pourrait être confortable. Mais Saint-Ex, que son ami le romancier suisse Denis de Rougemont décrit comme un géant chauve, aux yeux ronds d'oiseau des hauts parages, broie du noir. Mon premier tort, c'est de vivre à New York. Quand les miens sont en guerre et meurent, écrit-il. Il ne supporte plus d'être éloigné de l'action. Le sol français lui manque, les nouvelles de sa famille aussi. Bref, ce n'est pas agréable de vivre si loin et d'être parachuté, si on peut dire, tout seul. Alors, de temps en temps, il convoque ses propres souvenirs, à la manière d'un conte philosophique. Il dira ce qu'une existence de danger et d'engagement lui a enseigné. Et il s'attache à l'essentiel, l'amour, la responsabilité, l'amitié, et le rôle des fleurs aussi. Tant de choses l'ont heurté en fréquentant les grandes personnes. On le reconnaîtra bien sûr dans la tenue de l'aviateur. En 1935, il s'était lui aussi écrasé dans le désert de Libye, voulant effectuer la liaison aérienne Paris-Saïgon. Et lui aussi avait dû marcher 3 jours. 3 jours, 3 nuits avant de rencontrer par miracle une caravane. Mais en face, le garçonnet venu des étoiles sera son double. Saint-Ex se procure alors des couleurs et des pinceaux. Il a toujours peint, il a toujours crayonné. Et Paul-Émile Victor lui conseille d'acheter des crayons aquarelles pour ses dessins, ses innombrables dessins. Le 6 avril 1943, paraît à New York donc, en anglais et en français, cette très courte histoire d'un jeune monarque tombé d'une autre planète, tout ébouriffé, cherchant à rencontrer les habitants de la Terre. Un petit prince à l'exceptionnelle destinée qui deviendra le livre le plus vendu au monde après la Bible et le Coran. C'est un message universel que le monde entier s'accorde à trouver dans ses aventures. Ce petit prince, un enfant de la guerre. Il est aussi, et les spécialistes se plaisent à jouer les fins limiers, directement inspirés de la vie de l'auteur. Certains, par exemple, voient dans La Rose, dont le sort inquiète tant le petit voyageur, le visage de Consuelo, l'épouse d'Antoine. Depuis 1930, il a fait venir à New York, même si le couple bat de l'aile, car le couple, depuis 1937, est en réalité séparé. Le livre est dédicacé à un ami qui est resté en France, Léon Werth, un écrivain, un philosophe, un scientifique, et il est tout seul avec sa femme et son fils Claude. Il est juif et en 1940, il ne fait pas bien bon, à partir du 14 juin 1940, de rester tout seul à Paris. Aussi, il possède un petit chalet à Saint-Amour, dans le Jura, près de chez nous finalement, et donc il va, au bout de 33 jours de voyage difficile, périlleux, incertain, parfois cocasse ou tragique, il va s'installer, il va essayer de se cacher à Saint-Amour. Et Saint-Ex va dédier le petit prince à ce Léon Werth, car il sait qu'il est malade, qu'il souffre moralement et physiquement. Et donc, la dédicace est dédiée à Léon Werth. À Léon Werth, 1878-1955, « Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. » J'ai une autre excuse, cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse, cette grande personne habite la France, où elle a faim et froid. Elle a besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Werth quand il était petit garçon. » Voilà ce qu'avait écrit Antoine. Et rappelons-nous que lorsqu'il écrivait, il le faisait en musique et il l'acceptait et il choisissait toujours la compagnie de Mozart et surtout le début de la 40e symphonie.
Thank you.
Nous retrouvons Saint-Exupéry et le Petit Prince et ses personnages. Ils sont de l'entourage du pilote en exil. Saint-Ex gravite dans un univers très féminin. Il voit très souvent la journaliste Sylvia Hamilton Reinhardt, qui deviendra son amie, sa tendre amie, dont le caniche servira probablement, nous l'avons dit, de modèle aux moutons de l'histoire. La même offrira à Saint-Ex un boxeur, un nommé Hannibal. C'est chez Sylvia que le poète a pu s'inspirer d'une poupée aux cheveux blonds, d'où le visage et la chevelure, la tignasse du Petit Prince. Des souvenirs apportés par Denis de Rougemont ou d'autres, d'un Saint-Ex difficile à vivre pour la vie quotidienne, qui téléphone en pleine nuit à ses proches ensommeillés pour leur lire d'urgence des chapitres fraîchement écrits. Pour l'édition originale du livre, il a veillé à tout, notamment au positionnement des aquarelles dans le texte. Savait-il qu'il livrait une manière de testament ? Toujours est-il que le pilote, remobilisé en 43 en Afrique du Nord, quand son petit prince s'envole en librairie, peut-être était-il encore à New York au premier jour du lancement, quand les spécialistes se disputent ce point d'histoire. L'avion s'abîmera en mer le 31 juillet 44 au large de Marseille. On pense aussi au reste de l'avion. On pense aussi à la fameuse gourmette. Mais peut-être est-ce mieux d'avoir un mystère. C'est une œuvre posthume que la France découvrira en 46. En 46 chez Gallimard, l'éditeur de toujours. Et maintenant, nous allons appeler le renard. Le renard est le dialogue que beaucoup de Français connaissent, presque tout le monde devait connaître ceci, et le lire souvent, le relire, les enfants d'abord, les adolescents, puis les grandes personnes. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. « Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna, mais ne vit rien. « Je suis là, dit la voix, sous le pommier. « Qui es-tu ? Dit le petit prince. « Tu es bien joli. « Je suis un renard, dit le renard. « Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. « Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. « Ah, pardon, fit le petit prince. « Mais après réflexion, il ajouta, « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? « Tu n'es pas d'ici, dit le renard. « Que cherches-tu ? « Je cherche les hommes, dit le petit prince. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?»« Non, dit le petit prince, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?» « C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. »« Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. « Sur une autre planète ?»« Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là. »« Non. Ça, c'est intéressant. »« Et des poules ?»« Non. Rien n'est parfait, » soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. « Ma vie est monotone. »« Je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu, mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. » Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. « Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. « On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites pour chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire ? Dit le petit garçon. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. « Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus, mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain revint le petit prince. « Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. » Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite ? Dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se sembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah !» dit le renard, « je pleurerai. »« C'est ta faute, » dit le petit prince, « je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, » dit le renard, « mais tu vas pleurer, » dit le petit prince. « Bien sûr, » dit le renard, « alors tu n'y gagnes rien. » « J'y gagne, » dit le renard, « à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. » Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 renards, mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons. puisque c'est elle que j'ai écoutée se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » « L'essentiel est invisible pour les yeux, » répéta le petit prince, afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait la rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, » fit le petit prince, avant de se souvenir. Etc. pour notre Saint-Exupéry et notre petit prince. Voici donc quelques pensées de cet auteur qui sont maintenant des classiques et qu'on le trouve souvent. Les grandes personnes ont toujours besoin d'explications. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes, je les ai vues de très près, ça n'a pas trop amélioré mon opinion. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Les hommes, ah, je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines. Ça les promène, ils manquent de racines. Ça les gêne beaucoup. On ne voit bien qu'avec le cœur, avons-nous écouté tout à l'heure. L'essentiel est invisible pour les yeux. Les hommes s'enfournent dans les rapides, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et tournent en rond. Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. On risque de pleurer un peu si l'on est laissé apprivoiser, rendu moins sauvage, peut-être plus docile. J'aime la nuit, écouter les étoiles. Et nous repartons, après cette lecture, nous repartons en musique, ma foi, direction New York, puisqu'on avait quitté la ville qui ne dort jamais, mais qui écoute toujours. Merci à Glenn Miller d'avoir apporté son concours. Merci à Begin the Begin. Après Mozart, c'est un peu l'Amérique, il y a un petit peu de tout. Et donc, nous avons pris congé de notre renard, du Petit Prince, mais ils sont toujours là. Et maintenant, revenons un peu sur les lieux où Saint-Exupéry vécut. Ce fut donc un Français à New York. George Gershwin avait composé Un Américain à Paris en 1928. Mais nous avons un Français à New York le 31 décembre 1940, 2 avril 1943. New York est une mégapole de gratte-ciel qui ne dort jamais, on va dire. Paul Morand l'avait très bien décrite. Elle apporte le temps de la souffrance aussi. C'est une ville difficile, peut-être pas belle, mais fascinante. Saint-Ex va se faire vite à cette vie féconde en d'innombrables rencontres, nouveautés. Il apporte son aide précieuse, on le sait moins, quand il va conseiller les États-Unis sous l'uniforme, car les Américains penseront aussi au débarquement en Provence, août 1944, et vu de l'Amérique, la Provence, la Méditerranée, la Côte d'Azur, il fallait trouver le bon endroit pour débarquer le mieux possible. Il connaissait la région, puisque, enfant, il passait parfois ses vacances au château de la Mole. Paris le voit en lui un pilote égaré en littérature. Alors que New York, c'est une ville de fer, d'acier et de verre, elle est fantastique, tantôt modeste, elle l'accueille, parce qu'elle voit le pilote et l'écrivain. Elle le séduit, elle enrichit sa forte et complexe, ô combien complexe personnalité. Il poursuivra ainsi en Europe son combat face à la barbarie, mais il pensera toujours à Central Park, New York et Manhattan. Il va passer 28 mois d'exil. C'est dur d'avoir quitté la France dans ces conditions-là. Mais il a ses amis américains, les éditeurs, son agent littéraire, Maximilien Baker, qui est aussi l'agent littéraire d'un certain Simenon, son traducteur, Lewis Galantière, sa grande amie Sylvia, d'autres dames, Nada de Bragance, qui se suicidera en 1946 à Londres, Nathalie Pallet et la peintre d'origine roumaine Eda Stern. Quant aux Français, eh bien, il y a Pierre Lazareff, nous l'avons dit, il y a le peintre, il y a un certain Pierre de Lanux, il y a Raoul de Roussy de Sales, il y a l'écrivain Denis de Rougemont et puis Jean Renoir. Il est séparé de Consuelo, nous l'avons vu depuis 1937, elle vit en province, mais elle le rejoint fin 1941 à New York. Ils habitent le même gratte-ciel, mais pas au même appartement et presque au même étage, au 21e. Plus tard, ils s'installeront face à l'East River. C'est en bas qu'il y a le fameux café Arnold, où on se retrouve et où il prépare un peu techniquement pour écrire, pour rédiger et pour surtout illustrer le fameux ouvrage. Sylvia est proche de lui. Elle lui offre aussi la tendresse féminine dont il a besoin, le calme et puis l'attention et les nombreux conseils. Donc celui surtout d'illustrer lui-même son petit chef-d'œuvre. Donc trois femmes vont porter ce projet sur les fonts baptismaux. Il y a d'abord les épouses des éditeurs, Sylvia pour le projet, comme on l'a dit, et puis Consuelo. Car une fois que Consuelo est revenue aux États-Unis, suite à la demande d'Antoine, qui veut quitter New York parce qu'il fait trop chaud, il y a trop de frénésie, il y a trop de bruit, ça l'énerve, il voudrait un coin à la campagne. Elle déniche pas très loin de New York, à Long Island, elle découvre une belle villa. Lui voudrait une pièce, elle découvre cette villa appelée Bevin House, où il y a 22 pièces. C'est au bord de la mer, dans un parc ombragé. Mais lui va choisir tout de suite au rez-de-chaussée la petite bibliothèque. Il y a une cheminée, il y a des fauteuils, une table, et là, il va travailler jour et nuit pour achever le merveilleux texte illustré par Antoine en personne et qui fera le tour du monde. Et puis arrivera le départ, le jour où il faudra partir, embarquer pour enfin pouvoir partir en Afrique du Nord. Et c'est le 2 avril 1943, au petit matin. Antoine sonne chez Sylvia à 7 heures du matin. Il la réveille. Elle apparaît revêtue d'un vieux peignoir en flanelle et lui dit « J'aurais aimé te laisser quelque chose de splendide en souvenir de moi, mais c'est tout ce que j'ai. » Il lui tend son vieil appareil Zeiss-Ikon, appareil de photo, et jette sur la table d'entrée un sac de papier brun froissé. Il contient le premier manuscrit du Petit Prince, l'original. Il repart, boudiné dans son uniforme neuf de commandant de l'armée de l'air. On le voit ainsi sur l'unique cliché pris la veille, 1er avril, en compagnie de Consuelo. Et à la nuit tombée, eh bien, le convoi part pour l'Europe. Sylvia lui a offert une belle valise en peau de porc dans laquelle il range Citadelle sous forme de microfilm et une gourmette en or portant son nom et son groupe sanguin. Avant de la veille, il est allé voir les Hitchcock, il a dit au revoir à ses amis Jean et Simone Mercier, on lui a fait des grenouilles, il s'est régalé. Il est allé dire au revoir à Edda Stern, la peintre, qui habitait dans son atelier tout près de l'emplacement du futur immeuble de l'ONU. Et puis ensuite, chez elle, il dépose le brouillon des lettres et des épreuves de son ouvrage « Lettres à un otage », ainsi qu'un manuscrit dactylographié. Et ce petit prince va continuer à hanter notre Antoine, bien sûr, et il va se retrouver en Afrique du Nord et faire des pieds et des mains pour qu'enfin il puisse remonter dans un avion, car il a 44 ans, et donc, pour l'instant, il est interdit de vol, vu l'âge, etc., etc. Ce petit prince, dans Le Petit Prince, il y a beaucoup de personnages qui le hantent depuis des années et qui vont arriver. Il y a la famille, il y a les administrateurs, en général les bureaucrates. Il y a tous ceux qui se sont exposés à ce qui devienne finalement un grand écrivain, parce qu'ils avaient résisté à sa propre volonté d'un aristocrate devenir pilote, à celle d'un pilote de devenir écrivain, et à celle d'un pilote distrait de rester en activité. Il a fallu la guerre, une guerre mondiale et une montagne de problèmes personnels pour trouver tout cela réuni dans ce livre. Et nous avons ici le plaisir d'avoir une lettre d'Antoine adressée le 7 octobre 1942 à Sylvia. « Je suis ton ami plus profondément que tu l'imagines. Cela est masqué et invisible à cause des mauvais rapports que j'entretiens avec l'amour. » Cela est pour moi mon mystère bien fatigant. L'amour ne me fait pas parler, il m'empêche de parler. Il ne me délivre pas, il m'enferme, et en même temps il m'est nécessaire. Je m'embrouille dans l'amour, je suis décevant et contradictoire. Mais la tendresse ou l'amitié, une fois qu'elles ont germé en moi, n'en finissent pas d'y vivre. Petite Sylvia, je suis un bien mauvais marin. Ma barque ne vous est pas douce, et je ne sais guère où je vais. Tous vos reproches, sans exception, sont mérités. Et cependant, ma tendresse est extrême. Quand je pose ma main sur votre front, je voudrais le remplir d'étoiles et faire la paix dans vos pensées comme sur la mer. Je suis mal comme amant, mais je suis bon berger. Je suis ami fidèle. Je suis silencieux et d'apparence discrète, mais je comprends beaucoup de choses. Petite Sylvia, ne m'en veuillez pas trop. Je dois sans doute faire quelque chose dans la vie qui est hors de l'amour, et suis terriblement tourmenté de ne pas savoir lire mon chemin dans les étoiles. » Lettre rédigée à New York le 7 octobre 1942. La presse va faire une fête au livre d'Antoine. Le New York Times, par exemple, le 17 avril. Antoine de Saint-Exupéry, qui, lorsque ses lignes seront publiées, aura probablement atteint sa destination outre-Atlantique, a repris une fois de plus du service actif dans l'armée de l'air française. Les lecteurs du Petit Prince seront heureux d'apprendre que Saint-Ex a emporté une grande boîte d'aquarelles au cas où il retrouverait le Petit Prince. La presse aussi, le New York Herald Tribune, sous la plume de Pamela Traverse, l'auteur de Mary Poppins. Le Petit Prince réunit certainement les trois qualités fondamentales que doivent posséder les livres pour enfants. Il est vrai, au sens le plus profond, il ne donne pas d'explication, il a une morale. Encore que cette morale, bien spéciale, concerne plus les adultes que les enfants. Pour la saisir, il faut avoir une âme portée vers le dépassement de soi par la souffrance et par l'amour. New York, 11 avril 1943. Et enfin, nous avons une lettre de Consuelo après le départ de son Antoine. « Mon époux, vous allez revenir écrire des livres de confiance et d'amour pour illuminer, pour donner à boire. » Je crois que dans ton pouvoir de donation, en plus de ta poésie qui martèle de lueur, de ciel et d'amour, tu consoles, tu fais attendre, tu crées la patience qui bâtit l'être à l'être, écrit Consuelo. Et voici le dernier télégramme adressé par Antoine à Consuelo. Si tu savais ce que je regrette le plus, Consuelo, c'est de ne pas vous avoir dédié le Petit Prince. Ce Petit Prince, je n'ai jamais écrit d'histoire plus vraie, dira-t-il en parlant de ce chef-d'œuvre. Ainsi, celle de ses œuvres qui appartient avec le plus d'évidence au domaine de l'imagination souderait-elle le plus étroit rapport avec la vérité? Car tout dans le Petit Prince signifie, exprime, témoigne. Non la manière d'un traité de morale, mais comme le fruit gorgé de richesses amères d'une vie intensément vécue, ayant trouvé dans la fable sa plus juste et sa plus simple expression. Aller à la recherche, à la rencontre du Petit Prince, c'est donc essayer de s'approcher de cette vérité, en empruntant les multiples chemins de la création, de l'enfance à l'exil. C'est tenter aussi de rendre visible la trame existentielle et morale d'un livre dont le rayonnement universel n'a d'égal que sa très grande authenticité intime. Et donc, pour finir, avant d'écouter un air qui vous rappellera peut-être New York, voici la fin du Petit Prince. Ça, c'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même paysage que celui de la page précédente, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est ici que le Petit Prince a apparu sur terre, puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître. Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas, attendez un peu juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Mais alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste, écrivez-moi qu'il est revenu. Merci à Jimmy et à la technique. Nous dédions cette émission à Gisèle, bien sûr, et merci pour votre écoute. Et maintenant, merci à Audrey Hepburn de prêter sa voix pour évoquer New York dans cette chanson tirée du film Moon River, tirée du film Diamant sur canapé. Au revoir, merci, bonne journée.
Than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. the same rainbows end, waiting round the bend.